Bonjour, très chers amis et joyeux contribuables. Administration, institutions, associations, nous vous aidons à les rendre plus abordables, pour mieux comprendre vos droits et obligations. C'est votre vie pratique sur Radio B.
Nous connaissons toutes et tous la sécurité sociale dite Sécu, ou du moins nous pensons la connaître. Sans rentrer dans les détails, cette vénérable institution comprend plusieurs branches, de la famille à la maladie, en passant par d'autres domaines comme celui de la retraite. Il existe une activité moins connue et pourtant essentielle pour notre qualité de vie, je veux parler de la prévention. Dans cette matière, votre chronique Vie pratique s'intéresse aujourd'hui à un des nombreux aspects de la prévention exercée par la Sécu, l'examen de prévention de santé, ou EPS. Pour les intimes, je suis dans les locaux de la Sécurité sociale où se pratique cet examen de prévention. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous pouvez nous rappeler votre nom et votre fonction ?
Oui, docteur Nguyen Seng Si, je suis médecin responsable du centre d'examen de santé à la CPM de Bourg-en-Bresse. Depuis peu, le 1er octobre, j'ai pris mes fonctions ici.
Depuis le 1er octobre 2020 ?
Voilà.
Avant tout, comment on devient un médecin de santé dans un centre d'examen de la Sécurité sociale ?
En premier lieu, il faut avoir passé son diplôme de doctorat en médecine,
donc
ce que j'ai fait à la faculté de médecine de Lyon. Ensuite, j'ai exercé, et ce n'est pas obligatoire, en libéral à mon compte pendant 15 ans. Et pour des raisons familiales, j'ai voulu pratiquer une médecine différente avec une couverture sur l'aspect préventif un peu plus large, où je pouvais prendre un petit peu plus mon temps pour approfondir les sujets.
À part vous, il y a combien de personnes dans le service ?
J'ai une collègue médecin qui est à temps partiel, trois infirmières, une diététicienne, une dentiste et trois agents administratifs, ce qui permet de couvrir un petit peu tous les aspects entre l'accueil de l'assuré, le bilan sanguin, l'examen biométrique, l'examen dentaire, la consultation diététique et la consultation médicale avec différentes activités que je vous préciserai si vous voulez.
Ah ben on y vient tout de suite. Vous avez commencé à répondre à ma question suivante. J'allais vous demander en quoi consistait justement cet examen de prévention de santé. Il se déroule comment ?
Alors, en premier lieu, si vous n'avez pas fait de bilan sanguin depuis longtemps, on vous demande de venir à jeun le matin pour pouvoir réaliser une prise de sang assez complète et avec vos urines. Sinon, l'examen est fait sur place. Il est techniqué dans un laboratoire de proximité. Et ensuite, c'est l'infirmière qui vous prend en charge pour mesure du poids, de la taille, de la tension, un examen visuel, un examen auditif, un électrocardiogramme, des questions concernant la couverture en santé, ce qui nous permet de calculer un score de précarité, voilà, parce que c'est une des cibles qu'on cherche à atteindre du public qui a du mal à accéder aux soins.
C'est quoi un score de précarité ?
Nous avons un score qui comporte 12 questions, qui s'appelle le score épiste, et qui permet de déterminer si la personne est en difficulté vis-à-vis des soins, pour l'accès aux soins, pour l'accès à un médecin traitant, à un spécialiste. Le temps de cet examen nous permet de savoir aussi si on peut aider la personne autrement que par le dépistage et le diagnostic, accompagné via un autre service avec qui on travaille qui s'appelle la MAS, qui fait un accompagnement aussi social vers la recherche d'un médecin traitant, la recherche d'un spécialiste ou mettre à jour des droits, notamment la couverture AC2S pour les gens
qui n'ont pas... Vous pouvez préciser ces abréviations, MAS, AC2S ?
Anciennement CMU.
D'accord.
Pour des personnes dont le revenu n'est pas suffisant pour obtenir une mutuelle par leurs propres moyens, avec leurs ressources issues du travail. Ce sont peut-être des personnes isolées avec enfants ou des personnes qui sont proches de l'âge de la retraite, qui n'ont pas assez cotisé ou pas assez de revenus pour pouvoir se payer une mutuelle. Donc tout un système que je ne peux pas forcément
décrire
puisque c'est encore une autre branche chez nous. Et il y a des gens sûrement plus compétents pour vous expliquer le détail.
Donc au-delà de la médecine, il y a aussi un rôle social dans ce centre.
Tout à fait.
À partir de ce que vous détectez.
Voilà. Alors ça, c'est pour la partie sociale. Après, le caractère d'urgence va nous faire appeler le médecin traitant ou l'accueil des urgences. Ça arrive de temps en temps pour des cas graves ou urgents. Ce qui est très très sollicité, c'est l'examen dentaire, puisque ce sont des soins qui sont coûteux et qui nécessitent un accompagnement très souvent financier.
Donc je comprends, j'allais vous le demander dans une des questions suivantes, mais je comprends que vous entretenez des relations avec le médecin traitant des assurés qui viennent vous voir, avec le dentiste aussi, je dois le comprendre.
Alors,
ou on passe par le médecin traitant qui lui amènera chez le dentiste.
C'est notre dentiste qui fait les démarches auprès de la masse, notre service de mission d'accompagnement social, mais elle donne des coordonnées pour des centres mutualistes où les soins peuvent être réalisés avec une convention de plafonnement de prix, etc.
Bien sûr, oui.
Et pour ce qui est de la partie vraiment médicale, ça nous arrive de faire des courriers ou d'appeler directement le médecin traitant. Alors, nous faisons une orientation, nous ne pouvons pas suivre la totalité du déroulement du suivi médical. Cependant, il nous arrive d'avoir des retours des médecins traitants sur la confirmation diagnostique, sur l'évolution du malade, ce qui nous fait plaisir d'avoir...
Et vous rajoutez ça au dossier.
Et on rajoute ça au dossier, bien sûr. Les assurés en général sont très contents qu'on ait participé au dépistage, donc un dépistage d'une maladie grave, ça participe aussi à obtenir une chance de traitement, de guérison et de survie importante, et pour l'assurance maladie c'est une diminution du coût sur le long terme de la prise en charge financière de ces soins. Alors, au niveau périodique, nous ne pratiquons pas régulièrement pour tous les assurés, puisque pour offrir le maximum d'accès à tout le monde, c'est limité à un examen de prévention tous les 2 ans.
Tous les 2 ans, c'est ce que j'ai lu. Voilà. C'est ce que j'ai lu, oui. Vous avez parlé de dépistage. L'examen s'appelle examen de prévention de santé. Ça introduit donc la notion de prévention. En quoi c'est important? En quoi c'est si important?
Pour différentes tranches d'âge, nous n'avons pas les mêmes problématiques. Chez le sujet jeune, par exemple, nous avons des problèmes d'addiction. Des problèmes d'addiction qui peuvent mener à l'échec scolaire, à la désinsertion professionnelle et puis tout ce qui est lié à cette addiction. Un décrochage et puis un isolement vis-à-vis de la famille. Donc... au niveau des maladies sexuellement transmissibles, notamment, on met l'accent sur la prévention et puis le dépistage et le traitement. Par exemple, pour le dépistage du chlamydia qui peut donner une infertilité chez la jeune femme, est très souvent asymptomatique. Pour les sujets plus âgés qui sont à la retraite, on essaie de dépister le risque de chute, parce qu'une chute à domicile, c'est un syndrome de glissement chez une personne âgée avec la dépendance qui s'installe. Une personne âgée qui jusqu'à présent faisait son potager, son ménage, sa cuisine, qui ne peut plus rien faire parce qu'il vient de se fracturer le poignet ou la hanche. C'est beaucoup de mise en place d'aide à domicile et peut-être des fois aussi une dégradation cognitive liée à la perte d'interaction sociale à l'extérieur. Et puis pour la tranche d'âge entre 30 et 50 ans, plutôt les maladies cardiovasculaires, les troubles musculo-squelettiques pour ceux qui travaillent avec des conditions difficiles de manutention, de port de charge répétée et essentiellement ça, voilà. Et puis si on peut les aiguiller avant d'avoir une pathologie grave, c'est toujours ça de gagner pour eux, et puis pour nous c'est une satisfaction aussi.
J'ai compris que l'examen il s'adaptait à la personne, en fait. Là vous en fonction de l'âge, j'imagine que ça peut être en fonction d'autres critères. si je viens en famille, est-ce que je peux venir en famille, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants? Est-ce que c'est possible, ça?
Alors, pour la période actuelle, qui est une période un petit peu particulière,
ouais.
Nous avions limité l'accès aux tranches d'âge entre 18 et 65 ans.
C'est large.
Ceci dit, auparavant, on prenait les gens à partir de 16 ans. Ils étaient souvent en contrat d'apprentissage ou en recherche de réinsertion. Et là, on est en train de réouvrir un petit peu les vannes avec les personnes au-delà de 65 ans, sous réserve qu'ils sont vaccinés, même si on avait limité, lié aux facteurs de risque de complications avec le Covid, les pathologies qui risquaient de les exposer à une complication, malgré notre protocole sanitaire. Voilà. Maintenant qu'il y a une couverture vaccinale qui commence à s'élargir, on est un petit peu plus souple.
Vous revenez un peu plus à la normale.
Un petit peu plus à la normale, mais on évite les groupes, parce qu'on a une autre offre qui s'appelle l'éducation thérapeutique du patient diabétique, qui nous permettait de voir des groupes de 12 assurés diabétiques. Mais là, c'est un autre sujet.
Non,
c'est une autre offre.
Vous me parlez d'un ensemble de choses. Ça me paraît très riche. Je vais tordre le cou pour les auditrices et les auditeurs tout de suite à une légende ou à des propos que j'ai entendus en préparant l'émission. Ça coûte combien?
Alors, en moyenne, je dirais entre 200 et 250 euros.
Pour l'assurer?
Rien du tout.
Voilà.
Pour l'assurer.
Voilà,
c'est un calcul qui est fait par la CNAM au vu du temps horaire passé par le médecin, le dentiste, la diététicienne, les infirmières. Pour nous, ça ne change rien en tant que salarié de la caisse. Effectivement, plus on voit d'assurer, moins ça coûte cher.
Exactement. J'ai reçu un mail il y a quelques temps qui me demandait de passer pour réaliser l'examen de prévention de santé. Est-ce que c'est une démarche qui est réalisée régulièrement ou est-ce que c'était lié à la fin ou à l'amélioration de la pandémie sous une forme ou sous une autre?
Alors, depuis la reprise d'activité en septembre 2020, nous envoyons régulièrement via des requêtes des invitations pour les gens entre 18 et 65 ans.
C'est une invitation, c'est pas une convocation.
Alors, au départ, c'est une invitation. Une fois que la personne a confirmé qu'elle était intéressée, on envoie
le
rendez-vous sous forme de convocation.
Oui, il n'y a rien d'obligatoire.
Il
y a un bon taux de réponse positive, selon vous? Je ne vous demande pas des chiffres à but de nez.
Oui, alors ce n'est pas moi qui gère cette partie-là. Les gens acceptent plutôt l'examen lorsqu'ils n'ont pas de suivi, quand ils n'ont pas de médecin traitant, ce qui est assez logique finalement. La convocation leur parvient, elle peut arriver sous différentes formes, sous forme email, sous forme SMS, sur leur compte Amélie et sous forme courrier. Donc on a vraiment un panel de prise de contact et d'invitation possible et on a un service qui fait des requêtes en fonction de ce qu'on leur demande, c'est-à-dire inviter plutôt des gens qui n'ont pas de médecin traitant, qui n'ont pas de couverture maladie, qui n'ont pas consulté depuis 2 ans, aucun remboursement de soins.
À partir de la base de données de la Sécu.
Voilà.
D'accord. En fait, ce que vous m'avez décrit, les personnes qui venaient, c'était celles qui n'avaient pas de médecin traitant ou qui n'avaient pas consulté depuis un moment. Vous êtes en train de me décrire un profil type des personnes qui viennent le plus souvent.
Alors, c'est les personnes qu'on aimerait atteindre.
Et ça se fait pas forcément?
Si, parce que l'année dernière, on a eu 74% de nos assurés qui sont venus, qui font partie de cette catégorie.
C'est un bon chiffre.
C'est un bon chiffre, c'est ce que la CNAM nous demande. Mais on va dire une personne qui n'a pas consulté de médecin traitant, mais qui a un médecin traitant et qui souhaiterait bénéficier de ce service, peut tout à fait s'inscrire.
Vous m'avez dit 74%, c'est un premier chiffre parmi le public que vous ciblez plus particulièrement. Vous avez d'autres chiffres à nous citer? Pour donner une indication aux auditrices et aux auditeurs, combien de personnes passent dans le service à l'année, en période normale, je ne parle pas de la pandémie.
En période normale, 3 700. Lorsqu'il y avait 3 médecins et 3 infirmières, voilà. Le service s'est un petit peu remodelé en termes de personnel, ce qui fait que pendant la pandémie, il y a eu une coupure de 6 mois. Nous n'en avions vu que 1044, mais on nous demandait de respecter le fait qu'il n'y ait pas 2 assurés qui se croisent dans les couloirs. Avec l'installation d'un protocole sanitaire, lavage des mains à l'entrée, réception au rez-de-chaussée uniquement sur suite à un rendez-vous, changement de masque, nettoyage entre 2 assurés des installations.
Ce qui prend du temps.
Voilà, ce qui prend du temps et du matériel. Donc ce n'était pas forcément possible de réaliser les mêmes chiffres.
C'est évident, oui, c'est évident. Je vais changer un petit peu de sujet. Il est de notoriété publique que la pandémie a entraîné des conséquences sur les activités médicales habituelles en retardant les rendez-vous des opérations. Vous venez m'en parler. Vous avez donc dû arrêter le service pendant une certaine période. Qu'ont fait les agents pendant ce temps-là ?
Alors, pendant ce temps-là, je vous l'ai dit en début d'émission, mais ce n'était pas forcément votre question au départ. Ils ont participé
à
des activités en rapport avec la pandémie, le contact tracing, et puis une suite de l'examen de prévention en santé qui n'existait pas, c'est-à-dire rappeler les gens pour savoir si leur cancer qu'on a dépisté ou sur leur affection cardiaque qu'on a dépisté pendant l'examen de prévention en santé, ils ont pu donner suite et quel a été le résultat. Ce qui a permis de voir un petit peu l'efficacité de notre action et puis d'obtenir une petite enquête de satisfaction sur l'examen de prévention en santé. Il y a eu d'excellents retours.
Voilà. Je termine sur un dernier sujet. Les déserts médicaux font de plus en plus souvent l'actualité. Est-ce que d'après vous, les examens de santé de prévention permettent de pallier un petit peu, l'absence de médecins dans certains territoires ? Et dans quelle mesure, si c'est effectivement le cas ?
Alors, l'examen de prévention en santé nous amène à faire du dépistage assez complet sur l'ensemble des problématiques qu'on peut avoir selon les catégories de population et les tranches d'âge. Ça ne permet pas d'aller non plus jusqu'à la partie curative, le fait de guérir de la maladie. On a des déserts médicaux dans certaines communes de notre département et les gens sont là aussi pour qu'on les aide à trouver un médecin traitant, donc via la masse, mais qu'on commence à, ou qu'on les rassure sur le fait qu'il n'y ait rien de grave pour l'instant, même s'ils n'ont pas trouvé de médecin traitant.
Qu'ils repartent rassurés.
Voilà, ce qui est déjà, on va dire, un point positif pour quelque temps. Ce n'est pas définitif. Donc, ça pallie un petit peu. On ne peut pas voir tout le monde sur la durée, mais je pense que c'est une offre intéressante parmi d'autres, et on ne peut pas tout faire non plus de manière urgente à l'accueil des urgences.
Oui, bien sûr, voilà. Oui. Eh bien, merci docteur. Vous pouvez nous rappeler votre nom et votre fonction ?
Docteur Nguyen Sinh Si, médecin responsable au centre d'examen de santé à la CPM de Bourg-en-Bresse.
Eh bien, voilà pour cette chronique aujourd'hui. Notre prochaine émission traitera du football féminin. Il connaît une notoriété croissante au niveau national et nous constaterons que c'est aussi le cas tout à côté de chez nous grâce à des bénévoles très engagés. Nous accueillerons un dirigeant d'une équipe locale qui viendra nous parler de son club, des difficultés et des satisfactions rencontrées. Même les dames les plus réticentes de tous les âges peuvent s'inscrire pour intégrer un groupe où l'essentiel consiste à se retrouver pour disputer une partie de foot et la gagner. Messieurs, c'est aussi pour vous, rien ne vous empêche d'aider et soutenir les clubs des joueuses. En attendant, soyez sages et à bientôt sur le 90 FM, les bonnes ondes de Radio B.
Bonjour, très chers amis et joyeux contribuables. Administration, institution, association. nous aidons à les rendre plus abordables, mieux comprendre vos droits et obligations. C'est votre vie pratique sur Radio B.